Vous écoutez Radio Orient, il est 17h avec vous pour le point de l'actualité. Nadia Benchir et François-Xavier de Calonne. Au sommaire, l'état de famine à Gaza officiellement confirmé par l'ONU. 500 000 personnes se trouvent dans un état catastrophique. L'organisation accuse Israël qui dément toute implication. Nous en parlerons dans notre dossier du jour avec Tamin Al-Khitan, porte-parole de l'ONU pour les droits de l'homme. Autre dossier, le Nigeria, où les violences intercommunautaires s'intensifient. Mosquées, villages, chrétiens, aucune communauté n'est épargnée. Nucléaire iranien, nouveau coup de pression des Européens à l'issue d'un entretien téléphonique avec le chef de la diplomatie iranienne. Une nouvelle rencontre est prévue la semaine prochaine. L'ONU déclare officiellement la famine à Gaza. 500 000 personnes se trouvent dans un état catastrophique. Selon les experts de classification de la sécurité alimentaire de l'organisation, la famine devrait s'étendre au gouvernorat de Deir el-Balah dans le centre et Khan Younes dans le sud d'ici fin septembre. Affamer les gens à des fins militaires est un crime de guerre, accuse l'ONU. Réaction immédiate d'Israël qui dénonce une annonce biaisée fondée, je cite, sur des mensonges du Hamas. Le Hamas qui a pour sa part exigé l'ouverture immédiate de tous les points de passage de la bande de Gaza pour permettre l'entrée de plus d'aide humanitaire. Avant la déclaration de famine, le ministre de la Défense, Israël Katz, a menacé la ville de Gaza de destruction totale si le Hamas n'acceptait pas la paix au terme israélien. En Irak, les autorités au Kurdistan ont interpellé ce matin une figure de l'opposition de la famille Talabani, l'un des deux clans au pouvoir dans la région autonome. L'interpellation de l'Aour Cheikh Janji intervient au terme d'affrontements armés d'une rare violence ayant fait 3 morts chez les forces de l'ordre à Souleymaniye. Nucléaire iranien, le temps presse pour négocier une solution. Déclaration du chef de la diplomatie française à l'issue d'un entretien téléphonique avec ses homologues allemands, britanniques, la chef de la diplomatie de l'UE et le ministre iranien Abbas Araghchi. Une nouvelle rencontre aura lieu la semaine prochaine à ce sujet, a souligné Jean-Noël Barrot, confirmant l'annonce par Téhéran d'une prochaine réunion mardi. La Russie écarte pour l'instant toute rencontre entre Poutine et Zelensky malgré les tentatives de Donald Trump pour organiser un sommet de paix. Moscou accuse Kiev de refuser tout compromis tandis que Zelensky reproche à son homologue russe d'esquiver cette entrevue. Une visite à Kiev ou en visite à Kiev, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a exhorté les alliés occidentaux à offrir de solides garanties de sécurité à l'Ukraine pour prévenir toute nouvelle agression. Des doutes autour de la mort du chef de Boko Haram. Des experts appellent à la prudence au lendemain de cette annonce de l'armée du Niger qui affirme l'avoir tué le 15 août lors d'une frappe aérienne. Aucune preuve n'a été apportée jusqu'à présent par les autorités du pays. Les États-Unis durcissent leur politique migratoire. Plus de 55 millions de détenteurs de visas seront soumis à des contrôles renforcés. Washington a déjà annulé plus de 6 000 visas étudiants, 4 fois plus qu'à la même période sous Joe Biden. À partir du 25 août, il ne sera plus possible d'envoyer des colis vers les États-Unis via la poste, sauf pour des cadeaux entre particuliers d'une valeur inférieure à 100 euros. Une décision du groupe public français liée au durcissement des règles douanières américaines après une mesure similaire de la poste allemande. C'est ainsi que s'achève ce point de l'actualité. Place à présent au dossier du jour. Vous êtes à l'écoute de Radio Orient, place au dossier du jour. L'ONU déclare officiellement l'état de famine à Gaza alors qu'il semble qu'il n'y ait plus de mots pour décrire l'enfer que vivent les habitants de Gaza. Un nouveau terme vient s'ajouter, famine, des mots du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Nous allons écouter le porte-parole de l'ONU pour les droits de l'homme, Tamin Al-Khitan, que vous avez interviewé François-Xavier de Calonne tout à l'heure, mais tout d'abord un point sur la situation.
Oui, jamais l'état de famine n'avait été officiellement déclaré dans cette région. Les experts de l'ONU lancent un cri d'alarme. Ils soulignent que 500 000 personnes se trouvent dans un état catastrophique. Ils attribuent clairement la responsabilité de cette famine à Israël. Israël a aussitôt rejeté cette accusation. Mais pour l'Organisation des Nations Unies, la famine à Gaza aurait pu être évitée sans l'obstruction systématique d'Israël. Une accusation du chef des opérations humanitaires des Nations Unies. Après des mois de mise en garde contre une famine dans ce territoire palestinien ravagé par la guerre, le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, un organisme de l'ONU basé à Rome, a donc confirmé qu'une famine est en cours dans le gouvernorat de Gaza. Cet organisme estime qu'elle va s'étendre au gouvernorat de Deir el-Bala et Khan Younes d'ici fin septembre prochain.
Et oui, et l'ONU met notamment l'accent sur la malnutrition chez les enfants de Gaza.
Et oui, d'après les experts de l'ONU, plus d'un demi-million de personnes à Gaza affrontent des conditions catastrophiques. C'est le niveau de détresse alimentaire le plus élevé de l'IPC, caractérisé par la famine et la mort. Et vous l'avez dit, la malnutrition chez les enfants de Gaza s'accélère à un rythme catastrophique selon l'Organisation des Nations Unies. En juillet seulement, le mois dernier, plus de 12 000 enfants ont été identifiés comme souffrant de malnutrition aiguë. C'est le chiffre mensuel le plus élevé jamais enregistré. Le chef des droits humains des Nations Unies rappelle qu'affamer des gens à des fins militaires est un crime de guerre. L'ONU estime que les conditions dans le nord de Gaza sont tout aussi graves ou même pire que dans le gouvernement de Gaza. Seulement voilà, l'accès limité aux données dans cette zone empêche toute évaluation officielle.
Merci François-Xavier de Calonne. Vous venez de vous entretenir avec le porte-parole de l'ONU pour les droits de l'homme, Tamin Al-Khitan. Il nous fait part de cette situation dramatique et nous dit quels sont les outils pour déclarer officiellement l'état de famine.
C'est le résultat direct des actions menées par le gouvernement israélien qui a bloqué de façon illégale l'entrée et la distribution des aides humanitaires et d'autres produits nécessaires pour le maintien de la vie humaine pour la population civile dans la bande de Gaza. Nous avons vu des gens mourir à cause de la faim et des gens mourir aussi à cause de la malnutrition partout dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a détruit l'infrastructure civile, quasiment toutes les terres agricoles. Israël a banni aussi la pêche et a forcé énormément de gens à se déplacer, parfois plusieurs fois pour certaines familles. Toutes ces choses-là nous ont menés aujourd'hui dans cette situation de famine dans le gouvernorat de Gaza.
Vous soulignez qu'il s'agit d'une première au Proche et au Moyen-Orient. Comment faire face à cette situation? Quels sont les outils dont dispose aujourd'hui l'Organisation des Nations Unies pour tenter même de ralentir cette famine?
Cette famine, elle est faite par les êtres humains. Ce n'est pas une catastrophe naturelle. Elle aurait pu être évitée si Israël et la communauté internationale avaient écouté les appels du haut-commissaire aux droits de l'homme, Volker Türk, et d'autres responsables des Nations Unies pour protéger les civils, pour épargner les civils de cette horreur qu'ils vivent depuis bientôt 2 ans.
Aujourd'hui, vous craignez que cette famine, cet état de famine, puisse être déclaré dans d'autres endroits de la bande de Gaza. Et d'ailleurs, l'IPC, ce cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, souligne qu'il ne peut pas déclarer de famine dans des territoires dans lesquels il ne peut pas pénétrer. Ça aussi, c'est un élément important.
Oui, ça veut dire que peut-être que la famine est déjà en train d'arriver dans d'autres endroits de la bande de Gaza et c'est pour ça qu'on appelle les autorités israéliennes à prendre des mesures immédiates et concrètes pour mettre fin à la famine dans le gouvernorat de Gaza et pour éviter que cela soit le cas aussi dans d'autres régions de la bande de Gaza. Et c'est pour ça qu'il faut absolument permettre l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. Quand il s'agit des États tiers, eh bien, nous les appelons aussi, conformément à leurs obligations dans le droit international, à utiliser tous les moyens à leur disposition pour garantir le respect du droit international humanitaire, par les parties au conflit armé.
Comment est-ce que vous avez accueilli la réaction d'Israël qui rejette une annonce biaisée fondée, selon les dirigeants de ce pays, sur les mensonges du Hamas et Israël qui affirme qu'il n'y a pas de famine à Gaza?
Comment croire qu'il n'y a pas de famine à Gaza alors qu'on voit les images tous les jours, en fait, des enfants qui sont affamés et qui meurent, pour certains, à cause de la famine et à cause de la faim? Est-ce qu'on va partir du principe que tout cela, c'est des mensonges et il n'y a pas de problème dans la bande de Gaza? C'est quelque chose de frustrant de voir cette réaction au lieu de coopérer avec la communauté internationale, avec les Nations Unies, pour permettre de distribuer l'aide humanitaire. Ce qui est catastrophique dans cette situation, c'est que les gens sont en train de mourir de faim alors que l'aide humanitaire s'entasse par des tonnes et des tonnes à l'extérieur de la bande de Gaza et elle n'attend que d'être distribuée par les agences de l'ONU et les agences partenaires, mais Israël ne le permet pas.
Le porte-parole de l'ONU pour les droits de l'homme, Tamin Al-Ritan, au micro de François-Xavier de Calonne. Autre dossier du jour, les tensions intercommunautaires au Nigeria. Un gang criminel nigérian a tué au moins 50 personnes lors d'une attaque contre une mosquée et des villages de l'État septentrional de Katsina. Les violences n'épargnent aucune composante de la population. Plus de 7000 chrétiens ont été assassinés au cours des 7 premiers mois de cette année par des groupes djihadistes dans diverses régions du pays. C'est ce qu'indique le nouveau rapport d'InterSociety. Sedi Kaba, président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel, revient sur les violences qui sévissent dans le pays.
Le Nigeria a une tradition de tensions intercommunautaires qui se caractérise par des attaques puis des vengeances, un cycle d'attaques suivi de représailles. Et dans le nord-ouest du Nigeria, vous savez, le pays est un peu fracturé entre un nord musulman et un sud chrétien. Et il y a souvent des tensions de type communautaire avec de nombreuses pertes en vies humaines. Et le contexte d'insécurité dans le pays, marqué par l'existence de Boko Haram dans le nord-est et dans un peu le centre-est du pays, fait que, justement, on n'est pas surpris par ce type d'agression. Pour un pays comme le Nigeria, qui compte 230 millions de personnes environ, et qui est habitué à ce genre de violence, le chiffre de 7000 morts n'est pas complètement exagéré. N'oublions pas que Boko Haram...
7000 morts, hein, vous parlez des 7000 chrétiens qui ont été tués en un an au Nigeria. C'est ce qu'indique un rapport qui a été publié en juin dernier.
C'est ça, les 7000 morts représentent peut-être une proportion pas très élevée de l'ensemble de personnes qui sont tuées au Nigeria, mais ça traduit le fait qu'il y ait 7000 chrétiens tués, traduit justement la persistance et même l'aggravation de tensions intercommunautaires.
Et vous le dites, hein, l'ensemble des composantes de la population du Nigeria sont victimes de ces tensions intercommunautaires. Avec cette illustration, cette semaine, au moins 50 morts dans l'attaque d'une mosquée. Qui sont les personnes auteurs de l'attaque et quelles sont leurs revendications?
Au Nigeria, il est toujours difficile d'identifier, de distinguer le terrorisme qui est alimenté par Boko Haram alimenté par un autre mouvement qui a fait son apparition à la fin de l'année 2023, qu'on appelle les Lakurawa, qui est dans la zone frontalière avec le Niger et le Bénin, l'état de Sokoto, la région de sud-ouest du Nigeria, et distinguer ces mouvements djihadistes aussi du banditisme résiduel et de l'existence des milices d'autodéfense qui elles-mêmes sont devenues, au lieu de faire d'autodéfense, sont devenues des organisations criminelles avec vraiment un agenda crapuleux. Donc, il y a aujourd'hui un vaste mouvement, l'existence d'une kyrielle de mouvements armés au Nigeria, le groupe armé terroriste, le groupe armé d'autodéfense qui est seulement devenu crapulé. Il y a le banditisme résiduel caractérisé par les coupeurs de route. Et tout ça fait que la difficulté, le caractère fédéral du Nigeria entre les États fédérés et l'État fédéral, il n'y a pas souvent de coordination dans la réponse aux défis sécuritaires. Et c'est ça qui explique aujourd'hui l'existence de ce mouvement et le défi. Parce que souvent, les populations sont obligées de payer des rançons pour obtenir la libération, parce qu'à côté de ces personnes...
Ça, c'est cette crise du banditisme qui secoue aussi le Nigeria, vous l'avez dit.
Absolument, avec une économie même de la rançon qui s'est créée dans certains États, où les gens sont obligés de payer des rançons pour récupérer les leurs, parce qu'ils ne sont pas sûrs que l'État fédéral, même s'il l'informe, peut faire quelque chose au profit. Donc, il y a cette situation vraiment qui est une situation assez dramatique pour la première économie ou la deuxième économie du continent africain.
Cédric Abba, président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel, il répondait à François-Xavier de Calonne. C'est la fin de ce rendez-vous d'information. Merci à Mohamed Bezri qui en a assuré la réalisation. Prochain rendez-vous de l'information en langue arabe à 17h30 avec Sarah Bouazar. Excellente suite de programmes sur Radio Orient.